Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au micro, Blaise Chindani, Kambala. D'abord, les titres de ce journal. Jean-Pierre Lacroix poursuit ses consultations à Kinshasa. Ce mardi, le secrétaire général adjoint des Nations Unies a rencontré des députés de l'Est ainsi que des représentants de la société civile de cette région. Les échanges ont porté, entre autres, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Une manifestation ce matin à Kinshasa entre Baramoto et Sosimex dans la commune de Limete. Les protestataires, majoritairement les habitants du quartier Pakajuma, expriment leur colère face à la démolition de leur maison entamée lundi par les services de l'hôtel de ville. La MONUSCO, à travers sa section des affaires civiles, a organisé durant 2 jours à Beni au Nord Kivu un atelier pour renforcer l'engagement de la société civile, des autorités locales et des parlementaires de Beni, Butembo et Lubero dans les processus de paix. Pour en parler, nous recevons Jean-Paul Lusenge, responsable de programme des BEARIC et facilitateur de l'atelier. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix poursuit ses consultations à Kinshasa. Ce mardi, Jean-Pierre Lacroix a rencontré des députés de l'Est ainsi que des représentants de la société civile de cette région. Les échanges ont porté sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, la crise humanitaire et l'organisation du dialogue entre Congolais. Plus de détails avec Alain Irung Mouchi.
Pour sa part, la présidente de la société civile du Sud Kivu, Maître Nene Bintou Iragi, a déploré que malgré la signature de l'accord de Washington, les affrontements se poursuivent sur le terrain, entraînant des graves conséquences pour les populations.
La guerre continue, il y a eu des attaques à Ninja, il y a eu des affrontements dans les territoires de Walungu, à Kabare, par-ci par-là, dans les hauts plateaux, c'est toujours les affrontements. Et c'est inquiétant parce que pour nous, on ne peut pas continuer à parler de la résolution 2773-2808. On signe les cessez-le-feu à Doha, on signe les accords à Washington, mais le contraste est bien visible sur le terrain.
De son côté, le député national Moutiki, cadre de l'Union sacrée de la Nation, exige que le dialogue qui sera organisé se tienne ici à Kinshasa.
Le dialogue en question doit respecter notre pays, les institutions du pays, doit être organisé par les institutions légalement établies et à ce moment-là qu'il y aura la paix. Et le dialogue en question ne signifie pas l'impunité. On ne signifie pas un partage du gâteau.
Notez que Jean-Pierre Lacroix doit également rencontrer dans la journée le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avant de s'envoler pour l'est du pays.
Et puis sachez que l'Angola est officiellement désignée pour conduire des consultations en vue d'un dialogue intercongolais. La décision a été prise lundi à Luanda au cours d'une rencontre de haut niveau consacrée au processus de paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, y compris l'initiative des dialogues national envisagé par le chef de l'État, précise la présidence de la République. Plus de détails dans ces condensés de Grâce Hamzati rendu par Élisée Chikota Chivueta.
Cette rencontre a réuni les présidents angolais João Lourenço, congolais Félix Tshisekedi et togolais Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine, ainsi que l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, représentant les panels des anciens chefs d'État désignés par l'Union africaine comme facilitateur du processus de paix en République démocratique du Congo. À l'issue des échanges, les participants ont appelé toutes les parties en conflit à déclarer un cessez-le-feu devant entrer en vigueur à une date et à une heure à convenir. Ils les ont également exhortés à accélérer la mise en œuvre du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu convenu à Doha le 14 octobre 2025. Les chefs d'État ont par ailleurs convié à l'Angola le mandat d'engager des consultations avec l'ensemble des parties congolaises concernées afin de créer les conditions d'un dialogue intercongolais apaisé conduit par les institutions de la République dans le respect de la Constitution et désignant renforcer la cohésion nationale. Ils ont enfin réaffirmé la nécessité du respect strict et vérifiable des engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington du 4 décembre 2025 ainsi que des résolutions 2773 et 2808 du Conseil Conseil de sécurité des Nations Unies relative notamment au retrait des forces étrangères et à la stabilisation durable de l'Est de la République démocratique du Congo.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, des dizaines de leaders religieux sont désormais renforcés en capacité en matière de promotion de la paix et du développement durable dans l'Est de la RDC. L'organisation Action Interreligieux pour la Paix, en partenariat avec Bosco Exchange, a clôturé ce mardi une série de formations lancées la semaine dernière à Goma. L'objectif de l'initiative est de fédérer les confessions religieuses et de les outiller afin qu'elles jouent pleinement leur rôle dans la région. Cherche de la paix dans cette région meurtrie par les violences armées. Les détails avec Bernard Nyangi.
Le révérend Gilbert Boissa, coordonnateur de l'ONG Action Interreligieuse pour la Paix, explique que l'objectif principal est d'amener les leaders religieux à collaborer davantage pour promouvoir la paix dans leur communauté.
Si aujourd'hui les choses ne marchent pas, les leaders religieux doivent se mettre ensemble, réfléchir pour qu'ils puissent prendre un nouveau départ. Ce forum devient à la suite de notre que nous avons organisé avec les universitaires. Il faudrait outiller les gens afin d'amener la vraie paix, le vrai développement.
Pour les participants, cette formation est l'occasion d'acquérir de nouveaux outils susceptibles de renforcer la performance des confessions religieuses en matière de résolution pacifique des conflits, de cohésion sociale, paix et le développement durable, comme le dit ici Madame Rachel Mololou de l'organisation Femmes, Paix et Sécurité.
Si un leader religieux renforce les capacités des membres de l'Église, nous, les fidèles, nous pouvons aller à la mise en pratique. Et ici, on a touché la justice populaire. C'était vraiment à la haine. Mais lorsque les leaders religieux se sont impliqués, il y a eu diminution.
Les organisateurs indiquent que cette série de formations et de sensibilisations va s'étendre sur plusieurs autres acteurs sociaux vivant dans cette région déchirée par les violences armées.
Je le disais en titre, à Kinshasa, une manifestation a été signalée ce matin entre Baramoto et Sosimex dans la commune de Limete. Les protestataires, majoritairement des habitants du quartier Pakajuma, expriment leur colère face à la démolition de leur maison entamée lundi par les services de l'hôtel de ville. Selon ces derniers, les terrains appartiendraient à l'ONATRA et, après ces déguerpissements, la circulation des trains devrait reprendre sur cet axe. Nancia Tambo nous en parle.
Selon les témoins, les manifestants munis de bâtons, de barres de fer et de pierres ont barricadé la route et incendié des pneus le long de l'avenue Poids Lourd. Ils s'en sont également pris à des motos, à des véhicules privés et à des moyens de transport en commun. Un sous-commissariat de police a même été attaqué puis incendié. Témoignage d'un habitant du quartier.
C'était à 5h05. On a crevé les gens de Pakajuma. Ils ont barricadé la route. Le véhicule ne passait pas. Ils commençaient à casser les vitres des véhicules, personnel et tout. Et ce que je me demande, là où ils cassaient les véhicules, la police n'arrive même pas à intervenir.
De son côté, la bourgmestre de Limete appelle la population au calme. Elle affirme que cette démolition est réalisée dans l'intérêt général.
La population doit se calmer parce que nous devons aussi rélever l'infrastructure de notre pays, les rails là. Et quand ça sera construit, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, ils ne doivent pas faire du désordre, malgré qu'ils n'ont plus de logis.
Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Les habitants demandent une intervention urgente des autorités afin de rétablir l'ordre et d'éviter une nouvelle escalade de la violence.
Situation similaire dans le territoire de Mwanda, dans la province du Congo central. L'opération de démolition des maisons construites sur les domaines de la base militaire de Kitona, précisément dans le groupement Maputu, suscite des vives réactions. Cette opération menée par des militaires a été décidée par la hiérarchie de la base. Les députés provinciaux Jefferson Sisivimbi, qui condamnent ces démolitions, estiment qu'elles ne reposent sur aucune base légale. Il appelle les autorités des forces armées de la République démocratique du Congo à intervenir afin de rétablir les droits des habitants du groupement Maputu. Ces propos ont été recueillis par Nana Plurich Mambou.
Au moment où je vous parle, la population s'est plaint d'une opération brusque de démolition de leurs habitations. Vous serez d'accord peut-être avec moi que dans l'hypothèse où la population aurait construit en dehors des limites de la base militaire, je crois qu'une procédure légale devait être mise en place pour connaître la vérité. Parce qu'à ma connaissance, ces dossiers datent de l'époque du frère général Mustapha, alors commandant de la base. Là, les vraies limites de la base ont été démontrées et il était clairement établi que la population avait raison de s'installer là où ils sont. Ce ne sont pas des parcelles de la base militaire de Kitona. Et aujourd'hui, nous apprenons que les habitations de la population sont démolies brusquement et la démolition se fait par des militaires. Les civils ne peuvent même pas s'approcher pour expliquer quelque chose. Nous sommes en train de fustiger ce genre d'agissement parce que une procédure légale devait être mise en place pour démontrer les vraies limites. Les autorités hiérarchiques de FARDC doivent s'y mettre pour qu'une solution soit trouvée.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de l'administrateur du territoire et le commandant base militaire de Kitona n'ont pas abouti. Le commerce Lacus a repris dans la ville d'Uvira après l'occupation de la ville pendant un mois et demi par les rebelles de l'FC M23. Mais tout n'est pas rose pour la population à cause de la hausse des prix des produits de première nécessité sur les marchés. Les commerçants importateurs accusent les services financiers du gouvernement provincial de fixer la barre plus haute lorsqu'il s'agit de taxer les marchandises qui arrivent au port de Katundu dans la ville d'Uvira. Un reportage de Jean Kassami.
Le port de Kalundu situé au bord du lac Tanganyika à Uvira constitue l'épicentre par où accostent toutes les embarcations qui transportent de marchandises en provenance de pays limitrophes, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Là, les commerçants désenchantent la flambée des charges douanières imposées par la division provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes DPMR. Un opérateur économique d'Uvira qui n'a pas préféré citer son nom, c'est plein.
Le gouverneur nous avait annoncé l'ouverture du trafic et la culture sur le Tanganyika. Nous nous sommes empressés pour aller importer la farine, l'huile, la boisson et d'autres produits vitaux. Avant la guerre, la taxe de la DPMR venait à 4 000 $ par camion de marchandises, mais actuellement 6 000 $.
Le député provincial élu d'Uvira Bissima Sinderi plaide en faveur d'allègement des taxes à l'importation.
Dans les conditions sociales et économiques qui sont les nôtres à Uvira, la flambée des charges douanières au port de Kalundu est une décision décidément contre-productive.
Les autorités tant de l'Amérique et de la province n'ont pas préféré se prononcer sur la question. Jean Kassami, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit dans la province du Kasaï central. Une année après le lancement des travaux de construction de la chute hydroélectrique de Mbombo, le projet peine à avancer. Ce constat est dressé par la société civile locale qui s'inquiète du ralentissement observé sur le terrain. Ce barrage hydroélectrique d'une capacité de 12 MW doit être construit sur la rivière Lulua dans la localité de Chibambula, à environ 15 km de la ville de Kananga. Il est censé desservir la ville en énergie électrique et contribuer à la réduction du déficit énergétique dans la province du Kasaï central. Cependant, jusqu'à ces jours, les travaux n'évoluent pas comme prévu. Le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha, section Kasaï central, exprime sa préoccupation face à cette situation et dénonce le retard accusé dans l'exécution du projet piloté par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre. Reportage de André Katendengalamoulomé.
Lancé depuis février 2025, les travaux de la construction du barrage d'Embombo n'évoluent pas comme prévu. Sur le terrain, seulement quelques travaux sont enclenchés, notamment l'aménagement de la voie d'accès, la construction de la base vie et les études géotechniques. Cependant, les travaux proprement dits n'ont pas encore débuté. Jean-Calvin Luamba, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, section du Kasaï central, s'est plaint du retard dans l'exécution du projet qui devrait être exécuté dans 24 mois.
Depuis le lancement des travaux de la construction, une année sans savoir où nous en sommes avec l'évolution de ces travaux. Le projet était censé s'exécuter dans 24 mois. Et l'on se pose des questions pour savoir, c'était l'essai, erreur, ou c'était une aventure. Ils peuvent nous dire réellement ce qui se passe?
Nous avons tenté de joindre les responsables de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, en charge de l'exécution de ces travaux, mais nos démarches sont restées sans réponse. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Kapi.
Et puis au Kasaï Oriental, 40 jeunes filles étudiantes issues des différentes institutions universitaires de Mbujimayi participent depuis lundi au programme IFES Leadership Club destiné à promouvoir les leaderships féminins dans les sphères décisionnelles. Cette initiative de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, est mise en œuvre grâce au soutien financier du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni. Deux femmes reconnues pour leur parcours inspirant ont été identifiées afin d'accompagner ces jeunes pendant 2 mois. Explication avec Esther Ndalafina.
Bénédicte Tendeshimutombo, étudiante de l'Université de Mbujimayi, une des bénéficiaires, apprécie la mise en œuvre de ce projet qui consiste à former les jeunes filles sur le leadership féminin.
C'est un programme qui nous outille avec des compétences ainsi que des capacités afin de nous permettre de nous positionner dans la société en tant que jeunes filles et femmes en devenir comme leaders aussi aspirantes.
Pour sa part, ingénieure Chantal Moulanga, ministre provinciale de l'agriculture, choisie comme mentor, a encouragé les jeunes filles à cultiver une pensée positive et la confiance en soi. Au nom de la directrice pays de IFES Edna Koskei, Raissa Chikandama, chargée de communication à IFES RDC, a rappelé les objectifs de IFES Leadership Club.
C'est améliorer la connaissance des jeunes femmes qui aspirent au leadership. On a aussi ce pont-là de mettre à la portée de ces jeunes femmes entre les décideurs et qui sont comme la population. Parce qu'elles inspirent au leadership, on leur donne cette opportunité d'être avec ces femmes-là, de les écouter et de surmonter leurs défis.
Signalons que ce nouveau projet de IFES est actuellement mis en œuvre dans cette province de la RDC. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Rendons-nous à Nitourou avant d'aller plus loin. La journée internationale des légumineuses est célébrée ce mardi 10 février dans un contexte marqué par l'insécurité alimentaire et la précarité des ménages. Dans une province de l'Est de la RDC où de nombreuses familles peinent encore à accéder à une alimentation suffisante et équilibrée, les légumineuses apparaissent comme une solution locale accessible et durable. Haricots, soja, petits pois et arachides occupent une place centrale dans l'alimentation quotidienne des populations. C'est un reportage de Jean-Claude Lokidili.
Pour de nombreux ménages, ces cultures, en particulier le haricot, constituent un aliment de base car l'accès à la viande ou au poisson demeure difficile en raison de leur prix élevé sur les marchés. Soumaïli Okongo, un habitant de Bounia.
Comparativement avec d'autres aliments comme la viande, le poisson, on voit que le prix au niveau du marché, ça peut augmenter. On peut accéder facilement à l'haricot que à la viande, que même au poisson.
Cependant, ces producteurs font face à de nombreuses difficultés. Il s'agit notamment des changements climatiques qui perturbent les saisons culturelles et ont un impact négatif sur la production attendue. L'un d'eux, Martin Oloa.
Des fois, s'il pleut trop, les haricots ne vont pas bien produire. Mais s'il y a trop de soleil aussi, ça va sécher. Ça va faire que les haricots ne vont pas beaucoup produire.
À cela s'ajoute l'insécurité persistante dans certaines zones rurales, ce qui pousse les habitants de Bounia à se tourner vers d'autres marchés, notamment ceux du Nord Kivu et de l'Ouganda, ce qui provoque l'indignation d'André Safari.
Dernièrement, c'est Boule qui alimentait Bounia, mais imaginez-vous ce qui se passe à Boule maintenant. L'Argou, Lipri, Ngongo, tous ces endroits n'approvisionnent plus.
À travers cette journée, les Nations Unies encouragent ainsi les populations à produire et à consommer davantage ces cultures. Bounia, Jean-Claude Louki, Guilé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, ce lundi 9 février, les parlementaires ont adopté à l'unanimité un projet de loi qui entraîne par ricochet l'abrogation de la charte des partis politiques et de la loi relative à leur financement, à celui des campagnes électorales et au statut de l'opposition. Pour le gouvernement, le texte doit permettre de procéder à une profonde réorganisation de la vie politique nationale.
L'invité.
La MONUSCO, à travers sa section des affaires civiles, a organisé le 29 et 30 janvier à Beni, au Nord Kivu, un atelier pour renforcer l'engagement de la société civile, des autorités locales et des parlementaires de Beni, Butembo et Lubero dans les processus de paix. Près de 60 participants se sont engagés à soutenir les initiatives de Washington, Doha, Luanda et Nairobi, tout en luttant contre la désinformation. Pour expliquer cet engagement apporte à la paix dans la région, nous recevons Pour expliquer ce que cet engagement apporte à la paix dans la région, nous recevons Jean-Paul Lusenge, responsable de programme au Bureau d'études et d'accompagnement international en RDC Biarritz et facilitateur de l'atelier qui répond aux questions de Martial Papimukeba.
Jean-Paul Lusenge, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Pourquoi avoir décidé d'organiser une session d'engagement pour les acteurs de la société civile et les autorités locales, provinciales et coutumières de Beni, Butembo et Lubero en fait de soutenir les différents processus de paix?
Nous avons grandi dans la guerre et nous sommes mieux placés pour connaître les réalités actuelles de la guerre, surtout les adultérations qui s'en suivent. Nous sommes, si pas 15e accord, 13e, 10e ou 15e accord, il y en a déjà beaucoup, mais faute de la connaissance, on continue, on manipule les gens et on ne parvient pas à encourager ou à soutenir les autorités parce que ce qu'on nous dit des accords n'est peut-être pas la réalité de ce qui est vécu. Ainsi, nous avons dit non, c'était important pour nous de nous réunir ensemble, les politiciens, les parlementaires, les autorités, les leaders communautaires, nous tous ensemble, pour que nous puissions comprendre les contenus des accords, principalement les accords de Washington et de Doha, et voir dans quelle mesure nous pouvons donner la chance à la paix. Parce que la paix doit se construire par l'effort de tout et chacun, et nous avons pensé que à vulgariser, à connaissant les contenus de ces accords, c'est une grande forme ou c'est notre façon de lutter contre la désinformation. C'est lutter contre les intox, mais aussi c'est lutter contre donner aux ennemis la possibilité de les manipuler pour encore créer plus de mal. Et à l'issue même de cette activité, nous avons pris, nous tous, l'engagement de connaître et de vulgariser les contenus de ces accords, mais aussi de soutenir les autorités nationale pour le rétablissement de la paix.
Exactement, quelles sont les grandes lignes de l'acte d'engagement signé par les différents acteurs à l'issue de cette session?
La société civile, le parlementaire, les chefs coutumiers, les leaders communautaires, nous tous, nous nous sommes engagés d'abord à connaître, à vulgariser les vrais contenus des accords, à soutenir l'initiative de paix qui est en cours, à lutter contre la mésinformation, la désinformation et les intox qui sont autour de ces processus, mais aussi et surtout à soutenir nos autorités dans la recherche de la paix.
Selon vous, quel impact cet engagement aura-t-il sur la restauration de la paix et la cohésion sociale au Nord Kivu et en général dans l'Est de la RDC?
Après la signature de l'acte d'engagement, toutes les parties ont pris l'initiative d'aller sur terrain, d'aller vulgariser à travers les forats qui sont organisés dans les grandes entités du Grand Nord Kivu. Effectivement, jusque là, nous allons d'abord commencer par le Nord Kivu pour étendre un peu plus. Par cet engagement, la communauté, toute la population se donne à lutter efficacement contre la mésinformation et la désinformation.
Autour des accords de paix.
Autour des accords de paix, mais aussi autour de notre vie sociale. Parce que la paix, c'est une chose, mais elle est alimentée aussi par les problèmes fondamentaux. C'est pourquoi on doit commencer. Les thèmes que nous sommes en train d'enseigner et de vulgariser vont dans le sens de la lutte contre la désinformation. Et en luttant contre la désinformation, on aura déjà lutté. On aura déjà bouché la voie de la manipulation de l'ennemi qu'il peut utiliser. Donc, nous contribuons très efficacement au rétablissement de la paix parce que nous touchons les vrais problèmes et par là où l'ennemi passe pour la manipulation.
Jean-Paul Lusenge, merci.
C'était donc notre invité Jean-Paul Lusenge qui s'entretenait avec Martial Papimukeba et c'est ce qui met fin à ce journal de la mi-journée coordonné par Élisée Chikota-Chivueta, supervisé par Alain Irung-Mouchinge et mis en onde par André Mongou. Ce journal est disponible sur notre site internet www.radiocapi.net.